Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Marion. Marion que nous avons quitté hier soir pour raison de temps, puisqu'il ne nous restait absolument pas assez de temps, Marion, pour aller au bout de votre histoire. Je vais résumer assez rapidement la problématique, en tout cas une partie de la problématique à laquelle nous étions arrivés. Vous avez fait la connaissance d'un homme avec qui vous avez commencé à partager votre vie dans un endroit charmant, puisqu'il y avait une bâtisse où vous pouviez habiter, et puis une petite dépendance, tout ça entouré d'un terrain qui, me semble-t-il, était assez grand. Vous avez beaucoup, Marion, travaillé pour que cette maison, ce lieu d'accueil soit des plus agréables possibles. Vous avez, en plus, vous vivez avec votre fils, qui est collégien, qui est en sixième. Et puis, le petit s'était blessé à un moment. Vous aviez affronté une problématique, puisqu'il s'était fait très mal à la suite d'un soi-disant jeu, mais vous vous étiez aperçu qu'il y avait eu une version des choses qui vous avaient été présentées qui n'était pas la bonne, et cela vous avait tout de même pas mal perturbé. Parallèlement à ça, l'homme avec qui vous partagiez votre vie avait une sorte de passion, celle des foires à tout. Il était passionné et achetait pas mal d'objets, beaucoup de choses qu'il était censé retaper, réparer. Et puis au final, eh bien, il laissait un petit peu tout ça en plan, comme on dit. Il procrastinait pas mal. Il avait aussi une grande passion, celle des petits trains, des trains électriques, des jouets. Vous étiez tout de même de très bonne composition. Nous en avions quand même... conclu que cet homme était un petit peu immature, avec ses petits trains, avec tous ces objets qu'il laissait traîner, et qui avait transformé ce lieu très agréable en une espèce de chambardement total. Et puis il avait une volonté aussi au niveau de la nourriture, c'est que il exigeait de vous que vous fassiez la cuisine, et il exigeait toujours d'avoir ses petites pâtes et ses petites lentilles tous les soirs. C'est ce que j'ai retenu du plat qu'il exigeait. Enfin, tout ça pour dire que vous avez été excessivement conciliante avec cet homme. Vous avez supporté ses caprices. Vous avez supporté assez longtemps, et vous me rappellerez combien de temps, ses caprices et ses enfantillages, jusqu'au moment où on vous a diagnostiqué une leucémie. Et nous nous étions arrêtés là. Si vous souhaitez, Marion, rajouter des détails que j'ai pu omettre, j'ai essayé de résumer du mieux possible. Vous pouvez les rajouter dès maintenant avant que nous continuions votre témoignage.
Oui, bonsoir. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Non, tout y est, peut-être un petit peu dans le désordre, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Puisque vous êtes arrivé finalement à l'endroit où on s'était effectivement arrêté ensemble.
Nous étions partis aussi du constat. J'étais avec Jessica juste avant de vous prendre en ligne, qui était dans un état de tristesse vraiment profond, qui était en dépression depuis la perte de sa grand-mère, à qui je conseillais vraiment d'y aller progressivement, tout doucement, étape par étape, mais de poser des petits actes chaque jour pour elle, afin d'essayer de remonter. Je lui conseillais d'aller au sport, même une demi-heure, d'aller marcher dans la forêt ou là où elle aimait marcher. Et vous m'aviez dit que vous aviez déjà fait cela avant,
Oui, je l'ai déjà fait. Je l'ai même fait encore ce matin, puisque je suis maintenant dans une région qui correspond à ça, quoi. Donc, et durant le traitement de la leucémie, le traitement traditionnel, classique, obligatoire, quoi, très, très, très fort, j'ai également fait appel à divers thérapeute alternatif pour m'aider.
Oui, parce que cette leucémie lymphoïde chronique, vous avez été diagnostiqué, je le dis pour celles et ceux qui nous écoutent, en 2010. À l'époque, cette pathologie était, n'était pas très bien maîtrisée. Hein, et vous avez subi une chimiothérapie et une immunothérapie.
Non. Je vais me permettre de corriger. C'est une fibromyalgie qui a été diagnostiquée en 2010.
D'accord.
Et la leucémie a été diagnostiquée en 2017.
D'accord.
Okay. Voilà.
Bah, vous voyez, j'avais fait une...
Voilà, oui. Bon, voilà. Et je l'avais depuis 2 ans.
D'accord.
Voilà, parce qu'en retournant sur des bilans sanguins antérieur, je l'avais, mais le médecin avec lequel j'étais à ce moment-là n'a pas réagi. Donc c'est une maladie qui évolue sournoisement sans qu'on s'en rende compte.
Alors comment a-t-il réagi cet homme face à ce diagnostic qui a dû tout de même... beaucoup vous impacter, c'est un tsunami que vous avez vécu, je suppose.
Ah oui, oui, c'est un tsunami et un deuxième tsunami par rapport à sa réaction, parce que sa réaction, rien.
Rien du tout.
Rien. Aucun commentaire, rien.
Aucun changement dans son comportement.
Aucun changement. Rien du tout. Et c'est cette masse inerte quoi qui a fini par vraiment me mettre en colère.
Ouais, mais je comprends.
Oui, je peux vous raconter une anecdote assez, on pourrait dire burlesque.
Oui.
C'était le soir l'après-midi du 24 décembre 2017.
Oui.
Bon, en principe, on prépare un réveillon. Je me disais peut-être que dans mon état, il va préparer un petit quelque chose, n'importe quoi, même si c'est pas dans mes goûts. Enfin, juste le fait de le faire.
Il va un peu m'aider peut-être aussi.
Moi, j'avais rien prévu.
D'accord.
Moi, j'avais rien prévu parce que je me demandais, voyons voir ce qu'il va faire. Et en fait, donc, il ne bougeait pas. Alors, j'ai une particularité, c'est que quand je commence à me mettre en colère, je fais le ménage.
D'accord.
Il paraît que quand j'étais petite, quand j'étais en colère, je rangeais ma chambre. Voilà.
Ça, j'ai déjà entendu ça quelque part.
C'est que, ah oui,
oui, il y a pas mal de gens qui, quand ils s'énervent, commencent à ranger tout, en fait.
Voilà.
C'est une manière de se contenir.
Voilà. Donc je faisais la poussière, et je faisais la poussière précisément sur ces objets. Et tout d'un coup, j'ai absolument éclaté. C'est sorti, mais violemment. Une colère, j'ai tout attrapé. J'ouvrais les placards, je balançais les assiettes. Un comportement assez inouï. Et devant mon comportement inouï, rien. Il
rien
ne bougeait pas. Et tant et si bien que j'ai fini par avoir une... malheureuse, j'ai fini par dire « Bon, puisque je t'intéresse aussi peu, je vais me balancer dans le barrage. » Puisque ma commune est au bord d'un barrage EDF.
D'accord.
Je suis partie un petit morceau en voiture que j'ai laissé rapidement dans un endroit très visible. Sur du plat, et ensuite je suis partie vers ce barrage. Il y a quand même 5 kilomètres juste pour y aller. Donc j'ai croisé un paysan, bonjour, voilà. En fait, je n'avais absolument pas l'intention de me jeter dans le barrage. J'ai dit ça comme ça, et puis évidemment, la forêt, comme vous le disiez, ça calme, et en descendant... je me suis calmée. Et en bas. Donc c'est un site mais vraiment absolument merveilleux, quoi. Très calme. Sur la rive d'en face, il y avait un monsieur qui pêchait avec un jeune. C'est un endroit où il y a un viaduc qui laissait passer autrefois une ligne de train. C'était silencieux, c'était bien, quoi. Et c'était en milieu d'après-midi, hein. Et puis, comme on était en hiver, je vois que le brouillard commence à arriver. Je me suis dit, bon, ben, faut que je remonte les 5 km dans l'autre sens quand même, avant que le brouillard arrive. Et j'entame la pente, puis j'entends frappe, 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 frappe. Je fais, tiens, il est un peu bizarre ce bateau, il fait un drôle de bruit. Alors, frappe, 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 frappe. Je fais, mais c'est pas un bateau, c'est un hélicoptère. Et tout d'un coup, ça a fait tilt. J'ai dit, mon Dieu, il a appelé la gendarmerie et on fait une recherche en hélicoptère. Parce que c'est un. Ça arrive, on peut dire, un peu fréquemment.
Ah oui, d'accord.
Ce fait divers, oui. C'est arrivé.
Plusieurs fois.
Oui, 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 oui. Ou alors des recherches avec des chiens, enfin, autour de ces barrages. Il y a beaucoup d'accidents. Ou des suicides, effectivement. Et donc, je suis remontée le plus vite possible pour faire cesser ça. J'ai croisé une personne que je connaissais pas en 4x4. J'ai croisé un jogger. Et je suis montée le plus vite possible pour me mettre à découvert, pour me montrer, quoi.
Ouais, ouais.
Donc, à un moment donné, donc c'est ce que, comme je connais le terrain, c'est ce que j'ai fait. L'hélicoptère m'a effectivement vu. Et puis après, j'ai dû repasser dans les arbres pour aller jusqu'à mon véhicule. Et là, arrivent deux berlingots de. C'est des berlingots, en
fait. Gendarmerie ?
Je sais pas. Oui, de gendarmerie. Donc effectivement me chercher, me demande mon identité, bon c'est bien moi, et j'ai absolument refusé de monter dans leur véhicule, et tant et si bien qu'une petite jeune femme gendarmette a dit bon ben je vais l'accompagner à pied, et parce que je voulais retourner à mon véhicule, quoi. Et en y allant, elle me demande ce qui s'est passé. Alors, je lui explique ce que je viens de vous dire. Que ça n'allait pas du tout. J'étais en colère par rapport à ça. Et que j'avais dit ça vraiment... voilà. Sans rien de plus. Quand je suis arrivée à mon véhicule, alors c'était... Mais alors, le brouillard, plein de gendarmes... donnez-moi vos clés. Bah non, désolé, c'est ma voiture, je ne donne pas mes clés. Montez dans le véhicule, dans notre véhicule. Bah non, j'en ai un, donc je monte dans mon véhicule. Alors tout de suite, deux gardiens de chaque côté du véhicule. Alors le véhicule en question, c'est le plus petit 4x4 du marché. Je vais pas donner la marque, mais tout petit, donc qui n'est pas du tout stable, qui est pas fait pour rouler vite. Il est fait pour rouler en forêt. Je les vois là comme ça là dans cette attitude, je leur dis mais vous pensez à quoi là, que je vais m'enfuir et devant vous avec ce véhicule dans tous ces virages, ces petites routes, dans le brouillard, avec la police derrière moi. J'ai dit mais ça va pas la tête, quoi. Enfin, je leur ai dit, vous n'êtes pas bien, quoi. Et puis, je dis, mais on attend quoi? Ben, ils me disent les pompiers. Oh, je dis, mince, je vais partir à l'hôpital en psychiatrie. Alors, on avait à ce moment-là que deux médecins traitants, dont un faisait plus particulièrement les gardes de pompiers, et c'était précisément celui auquel je m'étais adressée pour cette leucémie. Et je leur ai dit, je vous préviens, je ne veux que ce médecin-là. Et effectivement, il est arrivé. Et en les engueulant, parce qu'il leur avait mal précisé le lieu, c'est un homme du coin et lui connaît tous les chemins. Et donc, il me fait rentrer dans ce camion des pompiers, il me fait, qu'est-ce qui t'arrive, tout ça. Alors, je lui explique, et là, je me suis mise à pleurer. Il me dit, écoute, avec tout ce ramdam, ce que je te conseil qu'il faut que tu fasses là, c'est d'accepter d'aller à l'hôpital. Moi, je m'occupe de les contacter parce que si tu n'acceptes pas, je vais être obligée de faire une HO et là, je serai bien embêtée parce que je ne vais pas pouvoir te faire sortir.
Et vous y êtes allée, donc.
Voilà, alors je lui dis vraiment, tu me jures que tu fais ça. Alors, j'avais rien du tout. Il me dit, oui, puis tu m'appelles si t'as un problème. Je lui dis, mais j'avais rien, pas de téléphone, rien. Je lui dis, attends, je me rappelle même plus de ton numéro. Alors, il le fait écrire par les pompiers sur un petit papier. Puis j'avais besoin d'un médicament absolument le soir. Je lui dis, tu sais, moi, il me faut ça. Alors, il dit au pompier, bon, vous vous arrêtez devant chez elle, je vais aller chercher ce médicament. Et c'est ce qu'il a fait. J'ai enfilé ça dans ma poche et me voilà partie aux urgences.
Et on va faire une petite pause, Marion, oui. Si vous le voulez bien. Et vous allez nous raconter la suite tout à l'heure. À tout de suite, Marion.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Toujours avec vous, Marion, avec cette tentative de vous calmer. Avec bien évidemment ce petit mensonge que vous faites à votre compagnon en lui disant que vous allez aller sauter dans le canal EDF.
Barrage
EDF. Et puis il vous prend au mot tout de même, puisqu'il prévient la police, hélicoptère, gendarme, tout. Et donc vous voilà embarqué donc par les pompiers et obligé d'aller à l'hôpital.
Voilà, bon, j'ai réussi à parlementer avec le psychiatre et je suis rentrée par moi-même, toute seule, en taxi, ce soir de réveillon. À l'arrivée, il a fallu que je paye le taxi, donc je suis allée, comme il avait fermé ma maison à clé, je suis allée chez lui pour réclamer ma clé. Et là, j'ai vraiment été stupéfaite parce qu'il dormait.
Ah oui, d'accord.
Ensuite, donc, on a démarré mon traitement de ma leucémie. Et ça a été tout le temps comme ça. Rien. Aucune réaction. Aucune aide.
Jamais, à aucun moment.
Jamais, à aucun moment. À tel point que ce même médecin m'a mis une infirmière quotidienne, quoi. Pour tout me faire, parce que ici la pharmacie est à une demi-heure, vous voyez, j'étais pas du tout en état de conduire, pendant des mois je n'ai pas conduit, voilà.
Alors je sais que vous ne viviez plus ensemble à ce moment-là, à partir du moment où vous me dites que vous êtes allé chez lui et qu'il dormait.
Oui.
Il avait, je crois, gardé votre... Vous aviez un chien en commun, une petite chienne.
Voilà. J'avais récupéré effectivement ma chienne en même temps, là.
Oui.
Voilà. La seule chose qu'il a faite, c'est de garder cette chienne, parce que c'est une chienne qui c'est pas une petite, c'est un berger belge qui a besoin de sortir.
Oui.
Donc, voilà, bon, il l'a occupée. Et puis dès que j'ai pu, je l'ai récupéré. J'ai eu beaucoup de mal à récupérer. Voilà, c'est tout. Un peu de course alimentaire.
Oui.
Et c'est tout. Et donc, un jour, il m'a dit qu'il n'avait pas compris que ça pouvait être aussi grave. Ah, c'est enfin... un cancer du sang, hein.
Oui, enfin, il est tout de même, il plane un peu, hein, cet homme, hein, j'ai l'impression quand même. C'est sa nature, c'est sa nature d'être comme ça.
Moi, je l'ai déjà entendu dire à propos de personnes très malades, elle est fatiguée. Ah ben c'est pas pareil, hein.
Non, c'est pas pareil. Et est-ce que ça a changé à un moment, cette relation? Est-ce qu'elle s'est améliorée ou alors est-ce qu'elle a empiré?
Ah non, du tout, elle a empiré.
Alors comment, dites-moi?
Comment ça s'est passé? Donc nous sommes un tout petit village, on est 160, hein. J'ai une vieille voisine, je me suis pas mal occupée d'elle à un moment donné, et puis bon, elle a fini par être par me sucer le sang, quoi, donc par me fatiguer. Et puis quand il est arrivé, je lui demandais un petit peu de... Elle avait réellement besoin d'aide, de l'aider pour certaines choses. Et là où j'ai dit que ça empirait, c'est que j'ai entamé parallèlement des gros travaux. J'ai un très très gros problème avec un dégât des eaux par une cheminée. Je lui demande de m'aider, parce qu'il est issu des BTP, pour discuter avec le maçon. Il vient, il fait des photocopies, il me dit j'ai oublié un document, il va le chercher en prenant la chienne pour lui faire prendre un bol d'air. Il revient à 14h en me disant bon ben maintenant j'emmène la voisine chez le médecin. Vous vous rendez compte la différence?
Oui. Non mais ouais, j'ai l'impression que cet homme il n'était pas du tout concentré sur...
Et non, alors là, évidemment, je me suis mise de nouveau en colère. En plus, la voisine en question, vous savez, dans ce village-là, on regarde derrière les fenêtres, donc c'est ce qu'elle faisait. Je lui ai fermé les volets sur le nez, et à ce moment-là, il m'a ceinturé. J'ai une hernie discale en plus, pour laquelle on venait de traiter, quoi, de faire une infiltration. J'ai une fibromyalgie, me ceinture, je me débats. Je lui mets une gifle et en échange, ben, je reçois des coups dans la tête. Et que fait-il? Il sort son portable pour rappeler la gendarmerie.
Il essayait de faire quoi
Alors voilà, il essayait de faire quoi? Eh bien, depuis donc, tout ce temps, depuis 20 ans, il a toujours essayé de me faire passer pour une dépressive.
Oui.
Or, ça a marché quand j'habitais sur Montpellier. J'en étais convaincue par moi-même, sauf que là, quand je me suis sentie pas bien, j'ai été par moi-même, sur ma propre volonté, consulter un psychologue qui, à l'écoute de tout ça, m'a dit « Mais vous n'avez jamais été dépressive avec tous ces événements, vous êtes tout simplement en colère. » C'est d'ailleurs comme ça que le psychiatre m'a laissé partir. Parce que c'est ce qu'il a constaté aussi, donc c'est pas une maladie.
Bon, et aujourd'hui alors, pour conclure, comment ça va avec cet homme? Est-ce que vous avez coupé définitivement les relations?
Alors voilà, mon problème, en fait, voilà, c'est pour en arriver là. Mon problème, c'est qu'il habite à quelques mètres de chez moi, hein, à moins de 100 mètres. Je suis obligée de passer devant, etc.
Oui.
J'ai des problèmes matériels énormes, donc...
Qu'entendez-vous par là? Quel type de problème matériel?
C'est une. J'ai entamé des travaux. J'ai des problèmes avec un maçon, un dégât des eaux. Parce qu'on est chauffé. Je suis chauffée en partie par un poêle au bois. Et donc la cheminée laisse passer l'eau. C'est une horreur. Je l'ai fait refaire faire. Donc c'est pas gratuit. Hein. Et j'ai un dégât sur un poêle neuf que j'avais fait mettre. Enfin bon. Voilà, et puis de temps en temps, vous savez, moi je suis pas très technique, des fois ben il faut brancher un truc, etc.
Ouais,
et tout donc, ça, il sait le faire.
D'accord.
Mais... il est très très compétent même là-dedans, et donc évidemment j'ai une tendance à puisque je n'ai personne d'autre, à aller vers lui, et lui il s'amuse à me faire attendre et par contre, à répondre instantanément à une demande d'aide d'une autre personne. Et c'est un voisin absolument adorable, super gentil. Et moi, ben, je suis la désagréable et la folle. Et c'est vrai que c'est un voisin agréable et gentil.
Mais le problème, je veux dire quand même, Marion, c'est que vous avez quand même eu une relation... d'amour avec cet homme.
Oui.
Vous avez eu une relation importante, en tout cas pour lui, visiblement, et pour vous aussi. Hein, à un moment, vous étiez donc avec lui. Vous êtes séparés. C'est un voisin, comme vous le dites, adorable et qui a des compétences, mais en même temps, et qui n'habite pas loin de chez vous. Donc, du coup.
Il m'a suivi. J'ai changé de je suis partie de l'Hérault pour le Cantal.
Il vous
à sa retraite, il est venu là dans le Cantal.
D'accord. Alors, écoutez, on va marquer une pause et écouter le temps du flash d'information. Et puis, on va se retrouver juste après pour que je vous donne 2-3 conseils par rapport à cette relation de voisinage un peu tumultueuse. D'accord ? Vous restez avec moi et on se retrouve tout à l'heure.
Oui.
À tout de suite.
Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Le temps passe vite et n'allez pas vous imaginer que voilà, je puisse m'ennuyer et bien au contraire à l'écoute de vos histoires, de vos témoignages. Eh bien voilà, je chemine et je quitte l'espace-temps. Je passe dans une autre dimension parfois grâce à vous. Il est donc bien 23h03 sur Europe 1 et nous sommes avec Marion. Marion qui nous explique ce soir, pour ceux qui nous rejoignent tout juste, eh bien que la relation avec son voisin, qui fut son compagnon, un compagnon qui l'a suivi, même si il y a eu une rupture entre eux deux et qu'ils ne vivaient plus ensemble. Ce voisin qui vous a suivi, Marion, et qui même si vous avez déménagé loin de Montpellier, vous a suivi dans l'Hérault, dans la campagne, dans un petit village de 160 habitants. Et donc, du coup, même s'il est adorable, vos relations semblent quand même semblent vous impacter régulièrement, en fait, Marion. Et même s'il est adorable...
Il est adorable avec... Excusez-moi, je vous ai interrompu.
Non, il est adorable avec tous les autres voisins.
Voilà.
Mais avec vous, c'est devenu très compliqué.
Voilà. Très compliqué. Parce que cet après-midi, là où j'ai reçu les coups, là, sur le conseil d'un ami, pour la première fois, j'ai composé le 39-19. Donc, pour la première fois, je commence à m'exprimer, ce qui, d'ailleurs, m'amène jusqu'à vous, aussi en même temps.
Alors, et quelles ont été les suites de cet appel ?
Effectivement, il s'agissait d'une violence psychologique et d'un harcèlement, dans la mesure où il m'a toujours suivi à chaque fois parce que j'ai acheté deux fois, quoi. Hein. Voilà, à chaque fois que je suis partie. Et elle m'a donné donc un contact sur un réseau local. Bon, ça n'existe pas dans le Cantal, donc c'est en Corrèze.
Oui.
C'est assez loin. Mais j'ai pris contact et j'ai donc rendez-vous ce lundi avec ces personnes.
D'accord.
Et en même temps, je me suis adressée à la psychologue de la Fédération du cancer du Cantal.
D'accord. Alors, moi, je vais vous... d'abord, vous allez bien évidemment attendre ces rendez-vous et celui de lundi déjà pour voir quels conseils on va vous donner par rapport à l'attitude de cet homme. Vous allez expliquer dans les détails l'histoire que vous m'avez contée, parce qu'il faut que eux aussi aient tous les détails pour que vous voyez, ils puissent établir un profil précis de cet homme. En tout cas, qu'ils aient une idée un peu précise de ce qui pousse cet homme, déjà ce qui a poussé cet homme à vous suivre. Bon, on se doute un peu de ce qui l'a poussé, c'est que je pense qu'il était... Il était sûrement encore épris de vous. Mais moi, j'ai envie de vous dire quelque chose. C'est que lorsque vous avez acheté, lorsque vous avez décidé de partir, Marion, eh bien,
oui, je vous écoute.
Ça n'était pas pour qu'il vous suive dans vos projets. Je suppose que dans votre tête à vous, c'était fini avec cet homme. C'était terminé.
Oui.
Et aujourd'hui, moi, ce que je vous conseille de faire maintenant, c'est de vous dire que cet homme n'existe plus. Cet homme ne doit plus faire partie de votre vie à quelque niveau que ce soit. Et que si il pénètre votre, votre bulle, hein, votre espace intime, c'est-à-dire votre espace, même votre maison, hein, s'il rentre dans le jardin, s'il vous suit, c'est tout de suite les gendarmes. Parce que visiblement, les gendarmes, par chez vous, là-bas, ils ont l'air très réactifs. Le constat que je fais, moi, c'est qu'il ne faut plus que cet homme soit dans votre vie. Pour ça, il faut que vous l'ignoriez complètement.
Oui.
Il ne faut plus qu'il y ait de garde de chienne partagée.
Et oui, mais ce qu'il y a, c'est que je me trouve dans des impasses parfois. Si je suis hospitalisée, le chien, vous voyez.
Et votre enfant dans tout ça, votre fils, il est où ?
Ah, mais lui, il a disparu de ma vie. Ça, c'est une autre histoire. Si on part là-dedans, c'est jusqu'à 1h du matin.
D'accord. Et il y a beaucoup de monde qui attend derrière vous,
oui,
Marion.
Oui,
donc,
voilà.
Vous m'écrirez, hein, un mail.
Vous voulez que je vous l'écrive, hein ?
Oui, j'aimerais bien que vous me l'écriviez et que vous me racontiez et qu'on puisse préparer ce témoignage-là ensemble, hein, que vous me racontiez ce qui s'est passé avec votre fils, parce que il a quand même... il a 19 ans aujourd'hui, ce garçon.
Ah non, il a 30 ans.
Ah, il a 30 ans, d'accord. Vous voyez, je m'y perds dans les dates.
Ah mais oui, c'est assez... je reconnais que c'est assez compliqué. Mmh. Mais quand je regarde en arrière, je ne sais pas comment j'ai pu faire pour passer tous ces événements, j'ai l'impression que toutes ces maladies, enfin ces maladies au début, ça s'est empiré parce que ça n'a pas été pris en compte, parce que bon, à l'époque, on prenait pas tout ça au sérieux. Et puis une leucémie, la fouille chronique, ça se couve, ça reste longtemps, ça vient lentement.
Mmh.
Et j'ai l'impression que tout d'un coup, mais je crois que j'ai entendu quelqu'un qui a dit ça parmi vos auditeurs, que ça, c'est ce qui m'a permis de me rendre compte enfin des choses. Mmh. Il a fallu que je sois malade, franchement. Et puis je l'ai...
En tout cas, concernant cet homme, moi je vais vous dire, il faut arrêter complètement de voir cet homme, de considérer que cet homme peut faire partie encore de votre vie. Cet ami que vous avez appelé lorsque cet homme a été violent avec vous, cet ami qui vous a conseillé d'appeler l'association de défense des femmes victimes de violences, il habite où cet ami ? Est-ce qu'il est loin de chez vous ?
Ah non, non, il habite pas du tout loin. Par rapport au canton, non, pas du tout loin. Mais il peut pas venir comme ça parce que c'est un vétérinaire. Il travaille 80 heures par semaine.
Oui.
On parle pas de la situation des vétérinaires ruraux. Par contre, je lui ai dit, écoute, moi, hein, maintenant, j'ai contacté une association et puis c'est machin qui me l'a conseillé. Et figurez-vous qu'il a été le voir dans son cabinet vétérinaire au moment où il travaillait, où il avait plein de problèmes. Et là, il a éclaté, l'ami. Hein.
Il a éclaté, comment ça ?
Il a éclaté dans le sens où il m'a demandé ce qu'il faisait là, justement, dans le Cantal, derrière moi. Et il a essayé de l'adoucir en lui offrant une ancienne moto, parce que c'est quelqu'un qui aime les motos, une ancienne moto.
Oui.
Vous voyez ? Il s'est senti là quand même un peu en danger, quoi, pour aller lui proposer ça, quoi, pour le calmer, l'acheter.
En tout cas, je vais vous dire, cet homme, comme je vous l'ai dit depuis le début, il est assez immature. Il a une manière de voir les choses, vous voyez, un peu immature. C'est-à-dire qu'il ne voit pas les choses qui sont graves, il ne voit pas les conséquences de ses actes. Il ne voit pas les conséquences même des comportements qu'il peut avoir. Donc, vous savez, j'ai un SMS de Kat qui nous écrit au 739-21 qui dit quelque chose de très vrai. Elle dit « Ce qui est gratuit est très cher. » Ne demandez plus rien à cet ex-compagnon. Hein. Trouvez un bricoleur à qui vous donnerez une petite pièce et les choses seront très claires, vous voyez, et nettes. Mais arrêtez de vous adresser à cet homme parce que tant qu'il ne sort pas de votre vie, il va vous causer des problèmes. Donc, moi, j'ai compris qu'il y avait cette chienne aussi, mais vous êtes hospitalisé régulièrement en ce moment ou y a...
Je l'ai été, là, maintenant,
maintenant,
pas, mais on sait, cette maladie, on sait que, comme elle est chronique, qu'elle reviendra dans un... On ne sait pas quand. Chaque personne, c'est différent. Hein,
oui, j'entends, Marion. Mais est-ce que lorsqu'elle revient, est-ce que vous pressentez cela? Est-ce que vous pouvez vous organiser? Parce que aujourd'hui, cette chienne, vous voyez, elle ne doit pas être. J'en connais hein, des gens qui ont acheté des chiens lorsqu'ils étaient en couple. Et puis, le jour où le couple se sépare, le chien devient. Il est au milieu là et puis
c'est ma chienne que j'ai achetée alors qu'il n'était pas là il m'avait pas suivi.
Si c'est votre chienne, Marion, hein, il va falloir que vous cherchiez dès maintenant l'adresse d'un chenil, vous voyez, d'un organisme qui garde les chiens en pension. Ça doit exister dans votre coin parce qu'il y en a un petit peu partout. Renseignez-vous peut-être autour de peut-être de vos voisins pour leur dire éventuellement est-ce que soit vous viendriez nourrir la chienne une ou deux fois par jour s'il m'arrivait une petite hospitalisation comme ça ou regardez où vous pouvez la mettre en pension. Mais vraiment, moi, si j'ai un conseil à vous donner, ne vous adressez plus du tout à cet homme. Ignorez l'existence de cet homme. Je ne sais pas si vous avez vraiment l'envie profonde aussi de rester là où vous êtes là maintenant.
Je me suis posé cette question. Bon, c'est très difficile en ce moment de revendre dans cet endroit-là.
Oui.
Mais je me suis dit aussi, je suis quand même partie une fois. Je ne vais pas sans cesse partir. Parce que quand on part comme ça, bon, en plus... maintenant, j'ai quand même un réseau là de soignants.
Oui.
Hein, quand on déménage, moi j'ai beaucoup déménagé, il faut au moins 5 ou 6 ans pour se refaire son réseau.
Oui, bien sûr, vous avez raison. Donc.
Moi, il me semble que c'est pas tellement à moi de partir.
Non, complètement. Oubliez ça. Je vous posais la question.
Mais j'y ai pensé à ce que vous dites là.
Mais. Moi, je vous conseille d'ignorer complètement cet homme, de le sortir complètement de votre vie. Et tenez-moi au courant, à savoir si vous arrivez à le faire, s'il comprend hein, que vous n'avez plus envie de lui adresser la parole. Même s'il vous adresse la parole, vous ne lui parlez pas. Faites votre vie comme vous l'entendez. Cet homme n'existe plus. Quand vous avez déménagé, il n'était pas censé vous suivre. Il vous a suivi. Tout ce qu'il fait actuellement comme ça, de négatif à votre égard, ça lui appartient. Mais maintenant, n'y attachez plus la moindre importance. Et comme je vous l'ai dit, s'il pénètre sur votre propriété, s'il vous embête, vous appelez les gendarmes. Hein. Vous êtes quand même dans une situation où, en plus, vous êtes une femme qui a la santé fragile. Croyez que les gendarmes seront quand même réceptifs à ce que vous leur expliquerez. D'accord ?
Oui, mais je comprends tout à fait, vous avez forcément raison. Comment elle a dit la personne, tout ce qui est gratuit est cher ?
Tout ce qui est gratuit est cher, ça veut dire que finalement, quand on demande à des personnes de nous rendre service, à un moment, eh bien, ça peut vous porter préjudice parce que soit ils vont vous demander quelque chose en retour, que vous n'êtes pas capable d'assurer, soit parce qu'ils vous ont rendu service, ils vont se permettre justement de venir chez vous quand ils en ont envie. Vous voyez, les choses ne sont pas claires quand vous êtes redevable vis-à-vis de quelqu'un. Donc c'est ce que Kat entendait dans son SMS. Je vais vous quitter maintenant, Marion,
oui,
parce
qu'il
y a plusieurs personnes qui attendent au 3921. Mais je compte sur vous pour me tenir au courant et vraiment essayer d'être ferme dans cette attitude-là, d'accord ?
D'accord. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, et je vous écrirai un mail au sujet de mon fils.
D'accord, avec grand plaisir. Passez une belle nuit, en tout cas une belle soirée, et une belle nuit, Marion.
Merci, je vous remercie tous.
Au revoir.